France Musique.
Cine Tempo. Par Thierry Jousse. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Ciné Tempo. Aujourd'hui, deuxième volet de notre promenade musicale dans les années 2010 avec un chassé-croisé Europe-Amérique. Et pour commencer, un petit voyage en Grèce. C'était grec pour débuter cette deuxième balade dans les musiques de films des années 2010. Il est issu de la bande originale du dernier film de Costa Gavras, Adults in the Room, sorti à l'automne dernier. Une analyse en mouvement de la crise grecque qui met en lumière de manière assez romanesque d'ailleurs le fonctionnement des institutions européennes, ce qui n'est pas a priori très romanesque, mais grâce à la mise en scène de Costa Gavras, tout ça est très clair et très dynamique. Alors cette musique a été composée par un compositeur français très international, vous l'avez deviné, c'est Alexandre Desplat, à qui il a été donné ici l'occasion de réactiver ses racines grecques, et il faut le dire, davantage que le film lui-même, cette musique est une vraie réussite, certainement une des meilleures de cette année 2019, fin de l'année qui vient de s'achever. De manière générale, la décennie 2010 a été très favorable à Alexandre Desplat, qui a obtenu pendant cette période deux Oscars. Alors justement, une de ses collaborations marquantes pendant ces années 2010, c'est celle qui l'a unie au cinéaste américain, drôle et sophistiqué à la fois, l'excentrique Wes Anderson, dont on attend d'ailleurs le prochain film cette année, un film qui se déroule, dont l'action se déroule en France. C'est d'ailleurs pour la partition d'un de ses films, celle de Grand Budapest Hotel, bien sûr, qu'Alexandre Desplat a obtenu son premier Oscar. Mais pour illustrer ce compagnonnage très fécond entre Alexandre Desplat et Wes Anderson, j'ai choisi de poursuivre avec un morceau étonnant qu'on peut entendre à la fin de Moonrise Kingdom en 2012, une paraphrase d'une composition de Benjamin Britten, un autre musicien très présent dans la bande-son de Moonrise Kingdom, qui par la voix d'un enfant savant nous donne l'occasion de détailler la nomenclature orchestrale choisie par Alexandre Desplat. Écoutez.
Now we will demonstrate the orchestration of Mr. Desplat's musical suite. A little electronic metronome sets the time. First, a harp. Next, pizzicato cellos. Flute. And piccolo. electric guitar. Ukulele. Classical guitar. Banjo. Thin wood blocks. And two more harps. Organ. Celeste. Bowed vibraphone. And piano. Pizzicato violins. Double bass. Tubular bells. And Glockenspiel. The ride cymbal. Piatti. Snare drums. Grand cassa. Timpani. 16 baritone bass singers. Xylophone. Bassoons. Clarinet. French horns. Tenor sax. Listening.
sur France Musique dans Ciné Tempo, une très belle chanson irlandaise interprétée par Lucy Hannigan et Lucy O'Connell. La musique en est signée Bruno Coulet, le français Bruno Coulet, pour l'excellent film d'animation, le très poétique Song of the Sea, le chant de la mer en français, réalisé par un cinéaste irlandais, donc Tom Moore, qui mériterait vraiment d'être plus célèbre tant son art et son style sont d'une délicatesse remarquable. C'est vraiment un des plus beaux films d'animation de cette décennie que je vous recommande si vous ne l'avez encore jamais vu. Alors pendant la décennie 2010, Bruno Coulet s'est beaucoup investi dans sa collaboration avec le cinéaste Benoît Jacquot, notamment par exemple dans Les Adieux à la Reine ou Le Journal d'une Femme de Chambre. Mais dans la mesure où j'ai consacré un Ciné Tempo au printemps dernier à cette doublette remarquable formée par le compositeur et le cinéaste, c'était une émission que vous pouvez retrouver évidemment à la réécoute sur le site Ciné Tempo, enfin sur la page Ciné Tempo du site francemusique.fr. J'ai préféré aujourd'hui vous faire entendre cette très très jolie chanson du Chant de la Mer, moins écoutée me semble-t-il. Alors parmi les compositeurs marquants des années 2010 figure assurément l'anglais Johnny Greenwood, par ailleurs membre du groupe Radiohead. Greenwood dont je vous ai déjà parlé dans d'autres épisodes de Ciné Tempo, qui s'est fait qui a fait fructifier de manière très subtile sa formation savante et son goût pour la musique du XXe siècle au profit d'un cinéaste américain important, Paul Thomas Anderson, avec lequel Greenwood a entamé un très beau compagnonnage en 2007 sur le fameux There Will Be Blood, et son ouverture en particulier très impressionnante, et notamment grâce à la musique de Greenwood. Alors dans les années 2010, Greenwood est un compose notamment la musique originale d'un film assez fou, Inherent Vice, adaptation droguée avec Joaquin Phoenix dans le rôle principal d'un détective privé à la fois déjanté et mélancolique, d'un livre de Thomas Pynchon réputé inadaptable. C'est un film assez incroyable qu'il faut découvrir. Voici Shasta, le très beau thème debussiste signé Johnny Greenwood, qui évoque la figure insaisissable d'une femme qui a disparu.
Thank you.
Johnny Greenwood encore et toujours avec ce thème aux accents oniriques intitulé Alicia, extrait de la bande originale d'un autre film marquant de Paul Thomas Anderson, The Master, en 2013. L'histoire des étranges rapports qui s'instaurent dans l'immédiate après-guerre entre un gourou, inspiré d'ailleurs par L. Ron Hubbard, le fondateur de la Scientologie, interprété par le regretté Philip Seymour Hoffman, un acteur qui a disparu malheureusement pendant la décennie 2010, et son disciple, un Joaquin Phoenix extraordinaire, un des acteurs fétiches de Paul Thomas Anderson, comme Philip Seymour Hoffman d'ailleurs. Alors cet air rêveur composé par Johnny Greenwood reste dans les parages, me semble-t-il, de la musique française du début du XXe siècle, mais ici c'est peut-être davantage à Fauré qu'à Debussy qu'on pense. C'est en tout cas comme celle de Inherent Vice, mais aussi celle du dernier film de Paul Thomas Anderson, l'éblouissant Phantom Thread, une des partitions les plus frappantes de la décennie, ce qui fait d'ailleurs de Johnny Greenwood, qui au final a peu écrit pour le cinéma, il n'écrit pratiquement que pour les films de Paul Thomas Anderson, et il n'en fait pas tous les ans. C'est, je le disais, un des compositeurs malgré tout essentiels de ces années 2010. Changement de décor maintenant avec une musique électronique, entièrement électronique, composée par un certain Disaster Piece, c'est en l'occurrence le pseudonyme de Richard Vreeland, qui s'est fait connaître par des musiques de jeux vidéo dans lesquelles il utilisait, avec un certain bonheur d'ailleurs, des synthétiseurs vintage, qui a été repéré d'ailleurs par le réalisateur, c'est comme ça qu'il a été repéré par le réalisateur donc du film dont on va entendre un extrait musical, It Follows, et l'esthétique de It Follows, justement, premier long métrage de l'américain David Robert Mitchell, qui réalisera ensuite le moins réussi, me semble-t-il, Under the Silver Lake, s'apparente cette esthétique à celle de John Carpenter, tant sur le plan cinématographique que sur le plan musical, justement. Alors l'horreur s'insinue peu à peu, et la musique de Disaster Piece, sans doute une des révélations de ces années 2010, y participe grandement, la preuve. France Musique dans Ciné Tempo, une autre collaboration féconde de ces années 2010. C'est celle qui a uni Trent Reznor, leader du groupe à la fois expérimental et hardcore Nine Inch Nails, et Atticus Ross, en duo donc Trent Reznor et Atticus Ross, une collaboration qui a uni au cinéma de David Fincher sur trois films, The Social Network, avec lequel le duo d'ailleurs a gagné de manière assez surprenante, parce que c'est pas tellement la dominante en général, l'Oscar de la meilleure musique, c'était en 2010 je crois, Gone Girl, dernier film en date de David Fincher, mais aussi entre les deux donc Millennium, deuxième adaptation du best-seller suédois, ça s'appelait d'ailleurs The Girl with the Dragon Tattoo, la fille au dragon rouge. De mon point de vue d'ailleurs, c'est le film où la collaboration entre Reznor et Ross d'un côté et Fincher de l'autre a donné le résultat le plus convaincant. Cette bande originale d'ailleurs très pléthorique et presque totalement électronique et d'une richesse presque infinie. Là encore, une des musiques importantes des années 2010 dont on espère voir bientôt la suite, ce qui ne devrait peut-être pas tarder, puisque David Fincher avait, après quelques années d'absence au cinéma, des années où il a plutôt œuvré dans le monde de la série, notamment avec House of Cards et puis plus récemment Mindhunter, qu'on peut voir sur Netflix. Donc David Fincher travaille maintenant sur un projet autour de Citizen Kane, le chef-d'œuvre d'Orson Welles, avec comme personnage principal d'ailleurs le frère de Joseph Mankiewicz, Herman Mankiewicz, qui je crois était le producteur du film, pour lequel on espère qu'il poursuivra avec le duo formé par Trent Reznor et Atticus Ross.
Ciné Tempo, Thierry Jousse, France Musique.
encore à un moment cinématographique et musical important de cette décennie 2010 que nous évoquons aujourd'hui dans Ciné Tempo sur France Musique avec cet extrait de la bande originale de Only God Forgives, un film du Danois Nicolas Winding Refn dont l'action se déroule à Bangkok en Thaïlande. Only God Forgives avec Ryan Gosling et une étonnante Christine Scott Thomas dans le rôle d'une mère maquerelle et chef de gang. Ô combien perverse, une de ses performances les plus marquantes d'ailleurs, assez surprenante je le disais parce qu'on n'est pas tellement habitué à la voir dans ce genre d'emploi. La musique à la fois ambiante et assez inquiétante, comme vous avez pu le remarquer, elle a été composée par Cliff Martinez, qu'on connaissait jusque-là davantage pour ses travaux avec Steven Soderbergh, mais dans les années 2010, Martinez a entamé une relation de travail passionnante avec Nicolas Winding Refn, d'abord sur Drive, leur plus grand succès, un peu plus tard aussi, plus récemment, donc sur The Neon Demand et puis plus récemment encore sur la série diffusée en 2019 Too Old to Die Young, pardon, et au milieu donc sur Only God Forgives, mon préféré en 2013. Retour à des sonorités plus orchestrales maintenant avec le thème principal du film français réalisé par le Hollandais Paul Verhoeven. On aime bien les mélanges dans cette émission, mais c'est vrai que ça témoigne aussi de du cosmopolitisme, on pourrait dire, du cinéma contemporain. Donc un film français réalisé par le Hollandais Paul Verhoeven, elle, en 2016, avec Isabelle Huppert dans le rôle titre, qui obtient d'ailleurs pour ce rôle marquant un Golden Globe, ce qui a été assez rare dans sa carrière, elle a même failli avoir l'Oscar. La musique insidieuse, et on pourrait dire légèrement hitchcockienne, c'était l'anglaise Anne Dudley qui s'en était chargée, une musique pour laquelle elle a notamment obtenu en 2017 le prix France Musique SACEM, qui sera suivi d'ailleurs de cette musique, qui sera suivie d'ailleurs dans ce programme par deux autres extraits orchestraux sur lesquels nous reviendrons. Vous aurez peut-être l'occasion de deviner de qui il s'agit juste après évidemment cette séquence, mais tout de suite Anne Dudley pour le thème principal de Elle. Thank you. Trains, une composition signée Howard Shore, extrait de la bande originale du film de Martin Scorsese, réalisé en début de décennie, en 2011, Hugo Cabret, un film qui évoque en particulier la mémoire de Georges Méliès, et donc l'action se déroule à Paris. Vous l'avez d'ailleurs entendu, puisqu'il y avait de l'accordéon dans ce thème de Howard Shore. L'accordéon, c'est toujours pour les Américains, enfin même si Howard Shore est canadien. Le petit signal pour Parisiens, donc c'est la touche exotique, on va dire. Howard Shore, qui a beaucoup collaboré avec Martin Scorsese, surtout dans les années 2000, pour Gangs of New York, Aviator ou Les Infiltrés, donc il poursuivait cette collaboration avec Hugo Cabret, et même dans une moindre mesure pour Le Loup de Wall Street, où il y a beaucoup de musique pré-enregistrée. Voilà, mais c'est une collaboration que j'avais envie d'évoquer. Howard Shore, qui sera présent d'ailleurs en France au printemps, début avril, au Festival d'Aubagne, qui l'accueillera donc comme invité d'honneur, donc c'est, je crois, le premier week-end d'avril, et puis qui sera certainement présent, mais ça c'est une autre histoire. On en reparlera en 2021 dans les salles de Radio France. Juste avant, c'était parmi les trois morceaux enchaînés. Avant, c'était Grégoire Hetzel, donc le compositeur de prédilection de Arnaud Desplechin, avec lequel il a travaillé cette année d'ailleurs pour Roubaix, Une Lumière. Mais j'avais choisi d'évoquer le film que je préfère, je crois, de Desplechin dans les années 2010, Trois souvenirs de ma jeunesse, une variation, une sorte de suite de Comment je me suis disputé. Avec un thème qui s'appelait Paul et Esther, non pas Polyester, mais Paul et Esther, je précise, un thème qui évoque, comme c'est parfois le cas chez Desplechin et chez Grégoire Hetzel, l'influence de Georges Delerue et de François Truffaut, avec cette dimension lyrique et élégiaque surtout. Et puis avant, je vous en avais parlé, c'était Anne Dudley et le Chamber Orchestra of London, tout comme d'ailleurs Grégoire Hetzel, pour le thème principal de Elle. Alors dans cette promenade, on va faire un petit détour en Espagne. Je vous avais annoncé un chassé-croisé un peu entre l'Amérique et l'Europe. En Espagne, bien sûr, pour retrouver un duo de légende, on pourrait dire Alberto, celui que forme Alberto Iglesias, le compositeur, et le cinéaste Pedro Almodovar. Une très grande fidélité entre eux, puisque leur collaboration a commencé en 1997 sur la Fleur de mon secret. Et depuis... C'est un travail en commun qu'ils accomplissent tous les deux, un travail très remarquable. Alors on en a vu un exemple cette année avec le très beau Douleur et Gloire, donc qui était en compétition au Festival de Cannes, vous en souvenez sans doute, qui était sorti au mois de mai. Mais j'ai choisi une bande originale que je préfère encore à celle de Douleur et Gloire, c'est celle de La Piel qui habito, un film assez étonnant d'Almodovar, sous influence Les yeux sans visage de Georges Franju, avec son côté baroque, et Antonio Banderas dans le rôle d'un chirurgien assez inquiétant. C'est sans doute l'une des plus belles musiques qu'Alberto Iglesias a composées pour Pedro Almodovar. Le morceau qu'on va écouter s'appelle El Cigarral. Thank you. la réactivation, en quelque sorte, d'une relation très fidèle entre un compositeur et un cinéaste, celle de Pino Donaggio, le compositeur d'origine italienne, avec Brian De Palma. C'était en 2013 pour la bande originale d'un film qui est passé un petit peu inaperçu, et pourtant il était assez remarquable dans l'œuvre de De Palma. C'était donc le film Passion, donc en 2013.
Cinetempo, la BO de la semaine.
Alors pour terminer cette émission, comme chaque semaine, j'ai triché un petit peu, donc c'est la BO de la semaine, mais j'ai triché un petit peu, je le disais, parce que je voulais vous reparler, on en avait déjà parlé brièvement, du coffret Ennio Morricone paru fin novembre, musique de film 1964-2015, et dans ce coffret de 18 CD, donc qui fait un tour d'horizon, pas complet, mais enfin très pléthorique, des œuvres de Morricone dans cette période-là, bah, on retrouve en particulier cette collaboration avec Quentin Tarantino, collaboration unique en ce qui concerne la musique originale pour Les Huit Salopards. Alors justement, puisque ça faisait partie aussi des musiques marquantes des années 2010, pour lesquelles cette musique pour laquelle Morricone a obtenu son unique Oscar officiel entre guillemets, à part un Oscar d'honneur, j'ai voulu voilà vous faire entendre l'ouverture pour terminer en quelque sorte ce Ciné Tempo, Les Huit Salopards, donc Ennio Morricone. Ouverture des Huit Salopards, donc peut-être pas le meilleur film, sûrement pas le meilleur film de Quentin Tarantino, mais sa seule musique originale, donc composée donc par Ennio Morricone, dont il avait d'ailleurs utilisé maintes fois des extraits de musique de films anciens, en particulier de western. C'en est fini de ce numéro de Ciné Tempo. Merci à ceux qui m'accompagnent aujourd'hui, Emmanuel Rose, Antoine Giraud, Dorothée Gold pour la page France Ciné Tempo sur le site francemusique.fr. Vous pouvez retrouver les renseignements de la programmation et également la réécoute. Stéphane Poitvin était à la technique et Bruno Rioux-Maillard à la réalisation. La semaine prochaine, on se retrouvera pour un premier épisode d'une spéciale Michel Legrand, et je vous signale d'ailleurs une belle exposition dans le hall de la Maison de la Radio, mais on en reparlera la semaine prochaine.
À réécouter sur francemusique.fr.